Bonjour François Eckhall.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI. On va évidemment parler finances publiques et dettes avec vous, mais j'avais d'abord une petite question plus générale. Est-ce que la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions peut être une bonne nouvelle pour l'économie française ?
Oui, c'est une bonne nouvelle. Ça aura des effets positifs sur la consommation et l'activité économique, mais il faut pas se faire d'illusions, il faut pas rêver. Ça ne va pas majorer significativement la croissance cette année et c'est pas comme ça qu'on va réduire le déficit public.
Bon, faut pas attendre de miracles de Marquinhos ou de Désiré Doué, c'est pas eux qui vont redresser les comptes publics de la France. Bon, la dette publique, 3300 milliards d'euros, la France affiche le pire déficit de la zone euro, mais vendredi soir, l'agence de notation américaine Standard & Poor's n'a pas dégradé la note souveraine de la France. Est-ce que ça veut dire que finalement, ça n'est pas si grave ?
Si, c'est grave, mais en fait, jusqu'à présent, lorsque les agences de notation ont réduit leurs notes, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup d'effet sur les taux d'intérêt. Mais là, on arrive à un stade où, si par exemple, Standard & Poor's nous avait dégradé, on serait passé dans une autre catégorie. On serait passé de la catégorie double A à la catégorie simple A. Alors ça, c'est très technique, mais il faut avoir en tête que beaucoup de banques ou beaucoup de gestionnaires de portefeuille, pour des raisons réglementaires, ou pour satisfaire les besoins de leurs clients pour les gestionnaires de portefeuille, doivent avoir un certain pourcentage d'obligations d'État classées double A
bien
et non
classé,
simple A,
oui.
Bien classées. Oui. Et donc, il risquait d'y avoir des ventes. Et donc, ça peut avoir un effet quand même, là, cette fois, sur les taux d'intérêt. Donc, les agences de notation hésitent, à mon avis, et attendent, le bon moment, c'est-à-dire, en fait, plutôt le mauvais moment pour faire ça, c'est-à-dire un moment où il y a un épisode, par exemple, un changement de censure du gouvernement qui justifierait cette décision qui pourrait quand même avoir des effets.
Donc
là,
ça
il
n'est qu'un répit.
Là, il ne s'est rien passé au cours de ces deux derniers mois, donc ils n'avaient pas de raison de le faire.
L'agence attend de voir si le gouvernement va pouvoir tenir ses objectifs, en fait.
Exactement. Là, pour le moment, voilà, le gouvernement dit qu'il va essayer de trouver 40 milliards pour l'année prochaine. Il ne devait pas les trouver hier. Il a annoncé qu'il le dirait début juillet. Donc Standard & Poor's n'avait rien à se mettre sous la dent.
Il n'y avait pas de question immédiate. Oui. Voilà. Le Premier ministre a promis donc un plan de redressement des finances publiques pour le début du mois de juillet. Il va demander un effort à tous les Français, c'est l'expression qu'il a employée. Est-ce que vous y croyez cette fois, vous qui observez tout ça depuis le début des années 80 ?
Je crois qu'il a la volonté de le faire, et son gouvernement aussi, le ministère de l'économie aussi. Je pense qu'ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, ils ont en face d'eux une assemblée nationale où je ne vois vraiment pas comment on pourrait trouver le minimum de consensus nécessaire pour voter des mesures significatives. Et donc, la loi de finances pour 2026 va être très très difficile à voter, et même si le gouvernement entend faire passer ces mesures en utilisant l'article 49.3, il risque quand même très fortement une motion de censure.
Oui, c'est chaque année plus grave. Chaque année, le déficit se creuse. À partir de quand ce ne sera vraiment plus possible de continuer à emprunter, de continuer comme ça ?
Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, contrairement à ce que dit mon ancienne maison, la Cour des comptes, quand elle dit « on est au pied du mur », je dis « ne dites pas ça ». D'ailleurs, quand j'y étais, je disais déjà à l'époque, il y a 10 ans, je dis « ne dites pas, on est au pied du mur, au bord du précipice ».
Nous sommes devant un mur, devant une falaise, dit François Bayrou. On n'y est pas encore, c'est ça ?
On ne sait pas à quelle distance est le mur ou la falaise. On peut encore emprunter, peut-être que ça va durer quelques années, peut-être que dans 6 mois, en effet, tout d'un coup, les marchés se mettront à avoir peur, à s'inquiéter, à faire monter les taux d'intérêt. Et ce jour-là, tout dépendra de ce que la Banque Centrale Européenne fera. Est-ce qu'elle nous aidera ? En principe, elle a les moyens, mais elle ne peut le faire qu'en contrepartie de mesures de redressement comme celles qu'elle a imposées aux pays du sud de l'Europe en 2011-2012.
Il est là le risque, François Eckhall, c'est que les marchés ne veuillent plus nous emprunter, nous prêter de l'argent à des taux intéressants, que la Banque Centrale Européenne s'en mêle et qu'on pousse la France à des réformes peut-être un peu brutales.
Exactement, oui, le risque il est là. De toute façon, donc, c'est un problème de souveraineté, parce que ça veut dire que notre avenir sera entre les mains de décisions qui seront prises à Francfort. Donc, et même si la Banque Centrale Européenne finit quand même par nous aider, et donc, donc il faut éviter, le risque il est là, oui.
Le risque est là. Cette fois, le gouvernement fixe donc l'objectif de 40 milliards d'euros d'efforts. Est-ce que ça vous semble faisable ?
Alors, faisable sur le papier, oui. Alors, d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, ça, c'est que ça n'est que le début de l'effort. Pour simplement stabiliser la dette publique en pourcentage du produit intérieur brut, faire en sorte qu'elle augmente pas plus vite que l'activité économique. Elle peut augmenter en euros. Hein. Personne n'imagine qu'elle de la diminuer en euros. Il faudrait faire un effort de l'ordre de 120 milliards d'euros. Ah, c'est un chiffre approximatif.
Donc
c'est
là,
100, 150.
Donc là, pour cette année, enfin pour l'année prochaine, ce serait qu'un tiers de l'effort.
Alors c'est normal. Les 120 milliards d'euros. Et personne n'a dit qu'il fallait les faire sur
c'est
un
pas
an.
Faisable.
Mais on en est encore très loin.
Oui. Et que faut-il faire? Tailler dans les dépenses?
Alors, il y a un grand sujet d'abord qui est, est-ce qu'il faut plutôt augmenter les impôts ou faire des économies sur les dépenses? Moi, personnellement, je pense qu'il faut quand même surtout faire des économies sur les dépenses parce que on a quand même... Alors, on est passé numéro 2 dans l'Union européenne l'année dernière en matière de dépenses publiques. Les Finlandais nous ont rattrapés. On fait la course en tête de toute façon avec les Finlandais et les Danois pour ce qui est du montant des dépenses publiques. Donc, on peut faire des économies sur les dépenses. Maintenant, je pense aussi qu'on n'évitera pas des hausses d'impôts. Il faut que
le gouvernement se refuse pour l'instant.
Moment,
il s'y refuse,
le gouvernement, il dit... parce qu'une partie de la classe politique s'y refuse.
Oui. Donc il y a l'équation politique qui, évidemment, est très importante, vous le disiez dès le début. Mais pour tailler dans les dépenses, est-ce qu'il faut y aller à la tronçonneuse comme Milei en Argentine ou Musk aux États-Unis, ou est-ce qu'il faut être plus fin, y aller, on va dire... tronçonneuse, sécateur, ou carrément la pince à épiler, si on veut y aller très gentiment. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Non, alors la tronçonneuse, certainement pas. D'ailleurs, enfin, bon, je connais moins bien le cas argentin, mais aux États-Unis, on voit qu'ils font des économies qui vont se retourner contre eux, enfin, qui sont totalement absurdes. Donc, certainement pas la tronçonneuse, pas non plus la pince à épiler, en effet. Alors, je dirais économiquement, tous les économistes vous diront, il faudrait faire ça en fonction d'évaluation des dépenses publiques, de leur efficacité, etc. Je ne peux que dire la même chose, mais je rajoute quand même que attention, parce que les évaluations de politique publique, ça prend du temps, ça demande des données, c'est jamais noir ou blanc, les conclusions sont toujours dans le gris.
Donc si on veut aller relativement vite,
il faut se décider, il faut aller un peu au-delà de ce que pas attendre d'avoir fait toutes les évaluations nécessaires.
Et alors, vous tapez où, François Eckhall, s'il faut taper quelque part en priorité?
Quand on veut faire un effort aussi colossal que 120 milliards d'euros, même si on en fait une partie par des hausses d'impôts, il faut regarder quelles sont les principales dépenses. Et là, le quart des dépenses publiques, c'est les retraites. Donc le sujet retraite est le sujet prioritaire. Après, un cinquième des dépenses publiques, c'est la santé, les remboursements d'assurance maladie. Deuxième sujet prioritaire. Ensuite, aussi 20% des dépenses publiques, c'est les dépenses des collectivités locales. Il y a aussi un problème du côté des collectivités locales. Ils ne veulent pas en entendre parler, les élus locaux ne veulent pas en entendre parler, mais il va bien falloir qu'ils contribuent eux aussi à cet effort.
Donc c'est là qu'il faut s'interroger. J'ai une dernière question et une réponse rapide si vous pouvez. Si on taille massivement dans les dépenses, comment on va activer nos priorités? On a entendu Emmanuel Macron nous dire qu'il fallait augmenter le budget de la défense, par exemple, qui est aujourd'hui de 50 milliards, le passer à 100 milliards. Comment on fait s'il faut en même temps
Ça veut dire mathématiquement que si l'effort nécessaire pour simplement stabiliser la dette, c'est 120 milliards, si on rajoute 30 000, si on dit qu'il y a 30 milliards de plus sur le militaire, par exemple, ça veut dire que sur les autres dépenses,
on trouve
150 milliards. C'est quasiment... L'équation commence à devenir insoluble, oui.
Merci François Eckhall d'être venu ce matin et bonne journée à vous.
Merci.